Autre radio, autre culture, bonsoir. Pour cette émission, nous avons l'outrecuidance, le culot, que dis-je, le snobisme, de déclarer que nous avons dépêché nos envoyés spéciaux à Chengdu, une immense ville située au sud-ouest de la Chine, à la rencontre du professeur Hou Datong. Chengdu, proche du Tibet, est cependant éloignée des préoccupations politiques de Pékin. C'est dans cette ville que se développe un courant psychanalytique proche de Lacan, dirigé par le professeur Hou Datong. Annie Ardin, notre sympathique psychanalyste, n'a pas hésité à franchir la muraille de Chine pour interviewer le grand professeur de psychanalyse Hou Datong.
Nous sommes à Chengdu, une très très grande ville de Chine, dans laquelle je rencontre le professeur Hou Datong, qui est psychanalyste, et je souhaitais qu'il nous parle des particularités de sa pratique et de son métier ici en Chine.
Bonjour, je suis très content d'être intervenu par Madame Annie Ardin. Pour partager à vous avec mon expérience psychanalytique.
Comment vous êtes-vous installé ici? En quelle année? Comment avez-vous commencé votre pratique à Chengdu?
Oui, j'ai commencé à pratiquer la psychanalyse à Chengdu à partir des 94 ans. C'est au retour, c'est après mon premier séjour à Paris, et puis j'ai retourné à Chengdu, c'est mon pays natal plutôt. Et puis là, j'ai rencontré quelques gens qui travaillaient dans l'université du Sichuan. Et puis après avoir su que j'ai fait une analyse en France, et puis il m'a demandé à faire une analyse. Alors, par cette demande-là, je me suis mis dans une position d'analyste.
C'est ça. Après un travail personnel d'analyse en France, vous êtes venu à Chengdu et on vous a demandé là une analyse. Donc, vous avez décidé de prendre cette position en quelque sorte.
Oui. Et puis d'abord, c'est dans un bureau du département de philosophie, comme mon cabinet. Après, l'université, m'offre un appartement où je me suis installé mon cabinet. Et puis ici, c'est ce qu'aujourd'hui nous sommes, c'est un nouveau appartement. Et puis, c'est ce que j'ai noué un appartement pour s'installer mon cabinet.
C'est ça. Donc, vous travaillez dans un appartement qui, au départ, était prêté par l'université. Et maintenant, vous avez votre propre cabinet où vous recevez.
Oui, oui.
Qui fait des demandes? Qui s'adresse à vous? Comment vous connaît-on? Quels sont les réseaux qui vous permettent aux gens de venir vous demander une analyse?
Oui, donc d'abord, c'est les enseignants et les étudiants de l'université, parce que j'ai donné certaines conférences à l'université, et puis par ces conférences-là, c'est des conférences comme une publicité. Par ça, donc mes premiers analysants sont plutôt des enseignants et les étudiants. Mais petit à petit, par les pouces, l'oreille, donc il y a des gens, des extérieurs de l'université sont venus. Il y a un fait que je veux insister aussi, j'ai été frappé par ces faits-là, c'est qu'il y a presque la moitié de mes analysants étudiants sont les enfants des paysans. Donc ça, peut-être c'est une particularité chinoise par rapport aux autres psychanalyses dans les pays occidentaux, aussi dans les pays américains latins.
Donc, ce sont les enfants de paysans qui, en particulier, viennent demander une analyse. Vous avez une explication de cela
Oui, justement, donc, j'ai réfléchi à beaucoup pour, jusqu'à maintenant, pour moi encore, c'est problématique. Mais, donc, quand même, j'ai donné une hypothèse là-dessus, c'est qu'il y a une rupture entre la tradition chinoise et la modernisation. Et puis là, donc, les enfants des paysans rencontrent cette rupture, et peut-être beaucoup plus fort que les gens européens.
C'est ça, c'est à partir d'une rupture donc, que les enfants de paysans viennent de demander une analyse.
Oh, oui, oui, c'est ce que mon hypothèse maintenant, peut-être après le sensé. Donc chacun, bien sûr, chacun qui a son propre singularité, son propre symptôme. Mais là, peut-être, il y a eu un trait commun. C'est là, ouais.
Quel est le rythme des séances? Comment vous vous organisez en général, hein, je vous demande des choses générales, je sais que c'est toujours particulier, mais d'une manière générale, comment ça se passe?
Oui, le rythme, pour moi, c'est 3 fois par semaine. Donc, certains gens qui m'ont demandé, par exemple, 1 fois par semaine, ou bien 5 fois par semaine, en général, je refuse. Mm-hmm. Mais quand même, il est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est... Et surtout, c'est les gens qui habitaient dans une autre ville que Chengdu, et puis qui sont... donc, la plupart du temps, ils ont fait une analyse avec moi au téléphone. Quand ils sont venus à Chengdu pour faire une analyse en la présence, alors là, c'est 5 fois par semaine.
Oui, c'est ça. On peut venir d'autres villes, c'est-à-dire de plus loin. À ce moment-là, vous les voyez plus souvent. Et puis, lorsqu'ils retournent chez eux ou lorsqu'ils repartent, vous pouvez faire des séances par téléphone. C'est bien ça?
Oui, oui, oui. Oui, parce que la Chine est trop grande, on est obligé. Et puis, la psychanalyse, il n'y a que la psychanalyse à Chengdu. Alors, on est obligé de changer un peu les règles typiques.
Oui, c'est ça. Vous êtes obligé de créer des manières de faire ou un style qui permet aux gens de faire une analyse malgré l'éloignement.
Voilà, 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 voilà. Très juste. Et puis, voilà, et puis chaque séance durait environ 20 minutes. Oui. Donc, dans mon programme, c'est 20 minutes. Mais les 20 minutes n'est pas fixe. C'est variable. C'est-à-dire, au moment, 5 minutes, si je sens la nécessité de couper, je coupe. Donc, dans ces cas-là, les séances, c'est variable. Mm-hmm. Mais mon programme, c'est 20 minutes.
C'est ça. Vous êtes organisé autour de 20 minutes, c'est organisé autour de 20 minutes, mais ça peut être plus ou moins selon ce que vous entendez.
Voilà, voilà, voilà. Donc, jusqu'à maintenant... J'ai pensé que ça marche bien, tout ça marche bien.
Tout ça marche bien. Et vous avez des personnes qui commencent peut-être à partir du travail qu'ils ont fait avec vous à recevoir aussi des patients?
Oui, il y a maintenant, on peut dire une dizaine de mon analysant travailler comme mon analyste. Pourquoi dire ça? Parce qu'il y a peut-être il y a cinq comme environ, qui sont déjà terminés leur analyse. Et puis, il y a encore l'autre moitié qui ne sont pas encore terminés leur analyse. Mm-hmm. En plus, dans notre groupe, on n'a pas encore établi les systèmes de la passe. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de nomination d'un analyste.
C'est ça, c'est un groupe tout à fait en début de formation, donc il n'y a pas de système organisé qui permettrait de dire, voilà, maintenant il est ou il n'est pas.
Voilà, voilà.
Vous êtes dans la création de, et la recherche de comment ça peut se passer, je suppose.
Oui, oui, oui. Je crois au moins, il faut encore 5 ans pour arriver à Sipana, au moins à 5 ans.
Et votre travail de recherche se poursuit à l'université, je crois, dans la section philosophie.
Oui, donc c'est donc maintenant on a un donc dans la section des philosophies, mais on a donc un DOA des psychanalyses maintenant qui est relativement indépendant de la formation des philosophies.
D'accord.
Mais donc on a tout ligné en même temps. Donc il y a une c'est-à-dire on a une formation théorique qui est installée dans l'université et puis une formation clinique, c'est-à-dire psychanalytique, et puis qui est indépendante de l'université. Donc comme ça, c'est ce que j'ai réfléchi beaucoup sur l'histoire des psychanalyses aux États-Unis, aussi en France, en Angleterre. Pour moi, bien sûr, donc la formation clinique et pratique et doit être indépendante de l'université. Parce que donc, la demande de l'analyse, c'est une demande tout à fait personnelle. Et puis, ne peut pas être mis dans les programmes de l'université. Voilà, par ça, donc, il faut une indépendance. Et si on fait encore une formation théorique qui est indépendante de l'université, il y a un risque qu'on coupe les liens entre la psychanalyse et toute la communauté de la science ou bien des savoirs. Donc, par exemple, aux États-Unis, on fondait une école isolée de l'université. Alors, mais justement là, quand il y a une demande psychothérapique évoquée par la psychanalyse, les départements de psychologie américains répond avec leur propre manière. Là, c'est une psychothérapie comportementalisme et le cognitivisme sont venus pour donc c'est là donc je crois les psychanalystes américains ont commis une faute.
Oui, c'est ça. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait une rupture entre l'université et la psychanalyse, ce qui pourrait le faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire laisser place dans les universités aux théories comportementalistes et cognitivistes qui élimineraient en quelque sorte la psychanalyse de la recherche scientifique.
Voilà. Donc c'est ce que ma réflexion. Alors maintenant, donc comme ça. Bien sûr, il y a des problèmes entre les programmes de l'université et puis la formation clinique. Mais quand même, jusqu'à maintenant, j'ai pensé ça va. Ça va. Donc,
pour cette manière de travailler, d'une part à l'université et d'autre part dans votre cabinet et avec une école extérieur à l'université permet de faire des liens. Et alors, je trouve que c'est tout à fait intéressant puisque ce que vous dites aussi de ceux qui viennent vous demander une analyse, c'est qu'il y a une rupture entre leur ruralité et leur urbanité.
Ouais.
Et donc, on a comme ça, en vous entendant, j'ai l'impression que vous travaillez pour éviter ou pour élaborer quelque chose des ruptures qui ne soient plus des ruptures.
Oui, justement. Oui. Donc, vous avez posé une très bonne question. Répondre justement là, parce que l'arbitre des psychanalyses, peut-être c'est pour restaurer la répondre. Peut-être c'est là. Donc pour moi, et puis donc on doit accepter la répondre, mais on doit essayer de réparer la répondre. C'est ce que j'ai fait, peut-être c'est là. Donc, en même temps, on confondait la refondure. Et puis, on réparait la refondure.
Comment, il y a des livres, sur quoi vous appuyez-vous? Vous faites, je suppose, donc des conférences. Il y a des livres écrits maintenant en chinois sur la psychanalyse. Il y a, voilà, professeur Wadatong en profite pour allumer son cigare.
Mais donc, pour moi, donc, la pensée que sur laquelle j'ai m'appuie, c'est bien sûr la pensée freudienne et lacanienne. Pour moi, j'ai pensé jusqu'à maintenant, donc l'histoire des psychanalyses déjà un peu plus de 20 ans, de 100 ans, pardon. Et puis, donc, c'est pendant ces 100 ans-là, donc on a trois périodes. La première période, c'est la période freudienne. Et puis la deuxième période, c'est la période lacanienne. Et puis jusqu'à maintenant, nous sommes encore dans la deuxième période lacanienne. Alors, c'est là, donc, c'est un axe. C'est, pour moi, donc, c'est un axe principal. Bien sûr, il y a des contributions de l'école d'Angleterre. Et puis, par exemple, la pensée, Melanie Klein, et puis Wollinckrodt, c'est intéressant. Aussi, François Tondo, qui a apporté beaucoup sur la psychanalyse des enfants. Mais l'axe principal, c'est Freud, c'est des Freud à Lacan.
Freud, Lacan, et donc certains des disciples, dont Winnicott, Melanie Klein et Dolto. Ouais. Et vous parliez de trois périodes. Nous sommes donc dans la troisième période.
Non, on n'a pas la troisième.
On n'a pas la troisième.
Pas encore, peut-être pas encore. Oui, il y a un psychanalyste français qui écrit récemment un article en disant que moi qui fais la troisième révolution dans l'histoire de la psychanalyse. Mais donc peut-être on est resté dans la période transitoire entre la deuxième période
et la troisième. D'accord. Voilà. Vous pourriez préparer la troisième.
Voilà.
Mais peut-être que si vous faites la troisième, vous n'êtes pas bien placé pour dire c'est la troisième.
Voilà, c'est là, voilà. En général, je n'aurais pas le droit de dire c'est la troisième.
Voilà.
C'est quelqu'un d'autre.
C'est un peu comme Lacan ne pouvait pas dire je suis lacanien.
Voilà. Donc, j'ai dit toujours je suis Freud-lacanien.
Quand même, moi, il me semble qu'il y a comme ça des grandes phrases qui courent et qui courent dans notre milieu, qui est bon, l'inconscient est structuré comme un langage. Je crois que c'est ce qui vous avait très intéressé quand vous aviez lu cela en Chine et que vous êtes venu à Paris.
Oui, donc quand on revoit qu'est-ce que mon parcours, donc j'ai pensé. Et avant, je suis allé en France, j'ai très bien fait une préparation, surtout pour à comprendre la pensée lacanienne. Donc, je pense, quand j'étais en Chine, j'ai pensé, quand même, j'ai compris principalement la pensée freudienne. Et puis, j'ai fait des auto-formations peut-être. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur la philosophie, sur la logique, sur la mathématique, même les neurosciences, etc. Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à lire les Lacan, donc tous les domaines que Lacan il a touché. Donc, c'est vrai. Et puis, donc, j'ai déjà certains savoirs. Et puis aussi, donc l'ambition. L'ambition que Lacan montrait, donc, j'ai pensé, c'est aussi mon ambition. Donc, c'est-à-dire, c'est la fraude découvert l'inconscient, aussi un dispositif d'analyse. Et puis, Lacan, il est travaillé pour trouver. Et donc, à partir de la découverte de Freud, Lacan a essayé d'établir un fondement. sur laquelle toutes les pensées occidentales ou bien toutes les pensées humaines se fondent comme ça. Alors, et justement, c'est ce que mon ambition. Donc, il faut faire comme ça.
Oui, vous aviez donc très bien préparé votre voyage, votre arrivée à Paris, en lisant beaucoup Freud et en ayant un peu conscience de ce que faisait Lacan. Et Lacan, vous l'avez donc découvert à Paris, à partir de, je le répète, l'inconscient structuré comme un langage. Et maintenant, j'ai lu dans différentes revues ou dans le livre d'entretien qui est paru récemment vous concernant, qu'une de vos directions de recherche était l'inconscient est structuré comme l'écriture chinoise.
Oh ouais. Donc justement, je ne sais pas, ici j'ai pas bien expliqué, j'ai pas faire comprendre les gens. Donc c'est ce que j'ai dit maintenant, c'est pour montrer que mon travail, c'est la continuité du travail de Lacan. Lacan, comme tout le monde sait, Lacan travaillait beaucoup avec François Chen. Pour moi, c'est pourquoi Lacan fait ça. Donc, il est rencontré. Comme j'ai dit tout à l'heure, Lacan va faire un fondement sur lequel toutes les pensées occidentales s'effondrent. Alors, ces fondements, pour faire ces fondements, il faut dépasser la limite de la pensée occidentale. Alors là, il est allé dans la pensée chinoise. Et précisément, c'est quelle relation entre l'imaginaire et symbolique, avec la langue occidentale aussi, écriture alphabétique. On ne voit pas la relation précise ou bien entre la relation imaginaire et symbolique. Mais il y a justement dans la culture chinoise, l'écriture chinoise, c'est une écriture, j'ai dit, idéographique. Idéographique, pas idéographique.
Oui.
Donc, si on fait une analyse sur la structure des idéographiques chinoises, on voit les liens entre l'imaginaire et les symboliques.
C'est ça.
Voilà, donc, mais les problèmes que Lacan a rencontrés, c'est François Chen traitait l'écriture chinoise comme idéographique. Alors, par là, on ne voit pas les liens entre les sons et les images visuelles.
Donc, oui, c'est faire le lien entre le son, l'idéophonographique et la graphie, c'est-à-dire l'imaginaire et le symbolique.
Oui, ilo, donc, c'est-à-dire ilo, c'est donc idéal. Donc, au sens platonien, c'est des formes visuelles. Follet, dans ce cas-là, c'est les images acoustiques. Alors là, donc, graphique, on voit les liens.
Donc, ça peut ramener quelque chose, vous citiez Françoise Dolto, vous citiez Mélanie Klein, à quelque chose aussi que l'on peut voir d'une manière beaucoup plus précise, peut-être dans les psychanalyses d'enfants, où il y a le dessin et le son et l'image acoustique qui viennent d'une manière assez claire se lier.
Voilà, justement aussi, donc, mais les questions, c'est encore là, c'est les réflexions là, donc on peut bien marquer, et Mélanie Klein, et puis Ulin Krot, ou bien François Dolto travaillent beaucoup sur la psychanalyse des enfants, mais ils n'ont pas pu développer une grande théorie, comme la théorie freudienne et lacanienne. Pourquoi? C'est qu'il n'y a pas une référence culturelle qui ne permet à faire. Alors, donc, par une analyse de la structure idéographique chinoise, idéophonégame chinois, alors on peut avoir une référence culturelle. Par ça, on peut développer beaucoup de choses.
C'est ça, c'est donc votre axe de recherche.
Voilà, voilà, c'est ce que, oui. C'est ce que maintenant je continue à faire. Donc j'essayais aussi d'utiliser les modèles des idéophonégames pour construire qu'est-ce que encore reconstruire, pour reconstruire un organe psychique qui répond à l'ambition que Freud montrait dans son projet de la psychologie scientifique.
Qu'aimeriez-vous nous dire aussi sur votre pratique ou sur comment vous avez accédé à tout ça, sur votre passé ou sur ce que vous attendez? Comment ça peut se développer en Chine? Quel est le rapport aussi peut-être entre le singulier qui est toujours présent, le particulier de l'analyse, et le collectif, qui est tout de même une vertu chinoise, peut-être? Est-ce qu'il y a des choses là que vous pourriez développer?
Votre question fait me rappeler qu'une discussion a eu lieu à Paris. Donc cette discussion, il s'agit de la discussion sur mon livre. La Chine sur le divan. Donc là, dans ce livre-là, j'ai parlé de la singularité de l'inconscient chinois. J'ai parlé de l'inconscient chinois. Donc, certains psychanalystes français ne sont pas d'accord. Donc, pour eux, donc, il n'y a que les singularités individualistes. Mais pour moi, donc, je ne suis pas d'accord avec eux. J'ai pensé qu'ils ne sont pas très bien compris la singularité lacanienne que Lacan, sur laquelle Lacan insistait toujours. Donc quand Lacan il parlait, parce que Lacan il parlait d'abord de la singularité de l'être humain, l'être parlant. Par rapport au monde naturel, par rapport aux animaux. C'est donc notre être humain qui est l'être parlant. C'est notre singularité. Alors, donc en suivant ces fines de la pensée, on peut dire, donc, mais Lacan, il a encore parlé. Et donc, un trait commun, c'est l'imaginaire. Donc, les animaux qui ont l'imaginaire. Aussi, il y a des réels. Voilà. Donc, si on doit parler de la singularité de l'être humain, alors, par rapport aux animaux, mais en même temps, il parle encore des traits communs entre l'être humain et animaux. Alors, en suivant ces fils des pensées, on doit parler. Donc la singularité de la culture chinoise par rapport aux autres cultures de l'être humain. Et puis donc on peut aussi parler de la singularité d'un individu par rapport aux autres individus. Donc on a trois niveaux, je crois. Il faut parler ça. Très commun et la singularité. On ne peut pas parler isolément de la singularité sans référer les traits communs.
C'est ça. La singularité, c'est pas l'homme et un homme, ce n'est pas la même chose. On parle de l'homme par rapport à l'animal, ou on parle de l'homme dans une civilisation chinoise, c'est pas pareil que l'homme dans la civilisation européenne, par exemple.
Oui, aussi, donc bien sûr, chacun chinois qui est différent que le nôtre, voilà, c'est là. Donc, on a trois niveaux. Ces trois niveaux classés toujours par les traits communs et la singularité.
Et comment pourriez-vous définir, comment voyez-vous, que pensez-vous de la singularité de l'homme chinois en quelque sorte?
Oui, ça, donc, ça c'est, donc, c'est, C'est une chose qui m'a encore gêné. Et donc, j'ai pensé, donc, jusqu'à maintenant, si tout à l'heure j'ai parlé, donc, la singularité, et la relation entre la singularité et les traits communs. Donc, c'est-à-dire, si on parlait des singularités, il est faux avec une référence commune pour parler. Mais jusqu'à maintenant, la théorie des psychanalyses n'est pas encore si précise pour préciser ou bien pour caractériser la singularité chinoise et la singularité française, par exemple. Ouais.
C'est ça, il n'y a pas eu assez de travail sur l'un et l'autre pour pouvoir aborder la double singularité.
Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on doit encore, construire, par cette confrontation peut-être, confrontation entre la culture occidentale et la culture chinoise, et puis on doit avancer, on doit développer la théorie pour que cette théorie ait développé encore plus précis, plus fin, pour saisir vraiment la singularité. Maintenant, donc, pas encore.
Travaillons.
Voilà, travailler. Il faut continuer à travailler. Ouais.
Bien. Et puis, je vous posais aussi, un peu mélangé à tout ça, la question sur votre vie d'avant, d'enfant, de comment un petit Chinois arrive un jour à se poser toutes ces questions-là. C'est-à-dire, j'ai envie de vous poser des questions. Que vous me parliez de vous d'une manière peut-être un peu plus personnelle. Je suis sûre que ça intéressera nos auditeurs.
Peut-être on peut parler. Comment vous aider à raconter mon histoire donc, dans certains livres. Alors peut-être je peux parler de ma histoire du point de vue un peu psychanalytique ou bien psychopathologique.
Oui, ouais. Psychopathologie.
Donc c'est comme donc je crois donc j'ai des problèmes des yeux, alors je vois pas très bien. Depuis que je suis volé ce monde-là, alors peut-être ça c'est-à-dire peut-être on peut dire une privation de regard. Alors donc c'est des privations réelles du regard. Qui entraîne un très grand soif de savoir le monde ou bien de savoir les autres. Peut-être que c'est cette soif qui m'a poussé à penser toujours, à regarder pour toujours, à réfléchir toujours. Donc pour essayer et voir quelque chose de plus clairement possible. Peut-être c'est là.
C'est grâce à vos mauvais yeux que
voilà,
vous
avez... Peut-être c'est là. Oui, peut-être c'est là. Il y a là la privation réelle du regard qui m'a poussé à regarder, donc, c'est-à-dire regarder et imaginairement, symboliquement, les choses plus près, plus précises.
Bien.
Ça va ?
Oui.
La réponse est
bonne. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire des choses comme ça ?
Mais par cette, c'est une explication que je suis trouvée par votre question. Mm-hmm. Voilà, pour moi, c'est. Peut-être que c'est déjà un point final sur mon histoire.
D'accord. Peut-être, je ne sais pas, plus près du quotidien. J'ai vu sur votre livre d'entretien, Le divan du professeur Ho, qu'il y avait aussi que vous aviez été garde rouge, que vous aviez vécu des tas de choses avec, c'est-à-dire la petite histoire qui est aussi la grande histoire à laquelle vous avez participé.
Oui, donc, Zuko. Si on veut ajouter, donc je ne suis entré pas dans mon histoire, dans les détails de mon histoire, oui. Comment j'étais, dont j'étais à raconter, j'étais à parler. Et puis, je crois donc aussi, il y a, peut-être, on doit, c'est Gassa, la pensée de Mao Zedong. Donc, c'est parce qu'il est, comment, donc, il a, qu'est-ce qu'il a introduit mais marxisme en Chine. Et puis en même temps, donc, dans son article, il est montré qu'il a un savoir très riche sur la pensée traditionnelle. Alors donc là, on voit en même temps, en tant que un Chinois moderne, il faut avoir en même temps une pensée traditionnelle, une pensée occidentale. C'est donc peut-être pour moi, c'est un signe des lettrés modernes, lettrés chinois modernes. Alors donc ça peut-être m'a poussé à lire les livres chinois et puis les livres occidentaux. Donc on est bien classé là, tous les livres sont concernés la Chine. Et puis ces côtés-là, c'est concerné la pensée occidentale. Mais ça, c'est les philosophies, mathématiques, logiques, neurosciences, biologie, physique, etc. Et puis ça, c'est les psychologies. Et puis ça, c'est l'histoire, ou bien anthropologie. C'est à peu près comme ça. Et puis, dans notre trois pièces, c'est les livres en français. La plupart, c'est les livres des psychanalystes.
D'ailleurs, je pense que la formation que vous proposez pour un psychanalyste chinois se compose en partie, donc obligatoirement, de la cure, si j'ai compris ce que j'ai lu sur vous jusqu'à présent. Oui. Une autre partie, une connaissance de la théorie analytique et des concepts analytiques existants. Et une troisième partie étant la culture de tout ce que vous venez de citer là.
Oui. Parce que justement, pour comprendre un cas, donc il faut une formation théorique des psychanalystes proprement dit, mais aussi il faut avoir une référence anthropologique, on peut dire, sur la culture chinoise. C'est là, donc, n'est-ce pas, pour comprendre. Oui, c'est là. Et en plus, donc, peut-être là, il y a un trait singulier. C'est, par exemple, pour un Français, une référence anthropologique sur la culture française qui est très présente dans l'enseignement universitaire. Parce que toutes les modernisations, c'est un prolongement de l'histoire propre de la France. Mais pour la Chine, non. Donc la modernisation, c'est que ce qu'on introduit des extérieurs. Là, il est répondu. Alors, donc, on est obligé. Et donc, faire des études spéciales sur sur les savoirs anthropologiques de la culture chinoise pour comprendre une cure. Aussi, là, on voit encore, il faut réparer la rupture.
Réparer la rupture.
Ouais. Et puis aussi, une rencontre avec la folie.
Alors, qu'appelleriez-vous une rencontre avec la folie?
Donc, d'abord, à mon avis, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore établi un dispositif de psychanalyse, des psychotiques, mais quand même, on a des cas réussites. C'est-à-dire, alors, donc, on doit essayer et généraliser les cas réussites pour établir un dispositif de psychanalyse, de psychotique. C'est ce que je vais faire. Je vais faire dans 10 ans. Donc, j'ai compté peut-être 10 ans ou 20 ans. Et puis, j'ai une étudiante qui travaille maintenant, qui est allée à Paris. C'est ce qu'elle est comptée à faire ça. Et puis, d'un autre côté, donc, chacun de nous, donc on a une base psychotique, comme Mélanie Klein soulignait. Et puis, là, et puis en plus de ça, donc, on doit reconnaître. Et puis, une autre raison, c'est, jusqu'à maintenant, bien sûr, la psychanalyse des adultes ne travaillait pas avec psychotique, mais on travaillait beaucoup avec les Andes et les Danimites. Pour travailler avec les Danimites, il faut traverser la limite. Voilà, pour avoir à la largeur. Donc si on arrive jusqu'à la folie, alors les Danimites restent au milieu. Donc comme par ça, donc on travaillait, ce sera plus facilement, plus solidairement avec les Danimites. C'est ce que j'ai pensé. Alors donc j'ai proposé donc tous mes étudiants aller dans l'hôpital psychiatrique pour parler avec les psychotiques. Pour un an, 2 ans, ça dépend.
Donc vos étudiants font en quelque sorte ce que nous appelons des stages à l'hôpital psychiatrique.
Voilà, ça commence donc l'année dernière, on est finalement établi un lien avec un hôpital psychiatrique. Donc voilà, donc par ces liens-là, donc mes étudiants peuvent aller ce qu'ils veulent.
Ceux qui veulent vont donc faire un stage à l'hôpital psychiatrique, c'est ouvert.
Voilà. Et puis, j'ai accentué beaucoup la nécessité. Ça.
C'est ce que vous appelez vous confronter à la folie.
Oui. Par la rencontre, la folie dans l'hôpital psychiatrique, en même temps, on rencontre la folie qui n'existe, c'est nous.
Oui, faire le lien entre la folie qui existe chez nous et la folie dans l'hôpital psychiatrique.
Oui, donc on peut dire, sauf Mélanie Klein, elle a souligné ça, mais aussi donc l'état des miroirs, les relations imaginaires, c'est Lacan, c'est une relation psychotique, on peut dire ça.
Que de travail effectué cependant, mais que le chemin est long avant que les Chinois recourent à la psychanalyse de manière générale. Il est évident que nous ne nous arrêterons pas là et que l'on continuera au gré du vent, au gré du chemin, au gré des analyses, à travailler et à découvrir ce peuple chinois à travers la psychanalyse, de découvrir également ces Français qui se sont installés en Chine. Je vous dis à très bientôt, autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.